As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms or restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal, présenté par Athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Gonin, en compagnie de mon fidèle acolyte. J'étudie alcoolique, moi. Mon fidèle acolyte, Arpin Basu. Bonjour, Arpin.
Wow. Bon, ben, c'est ça. C'est... En temps de pandémie, je pense qu'on est tous un peu alcooliques. On s'entend, là? Je pense qu'on est... Mais oui, merci Marc-Antoine. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, on enregistre, c'est le 13 octobre, mardi. On vient de parler à Marc Bergevin et Tyler Toffoli. On vient d'avoir un coup de foudre de notre collègue Pierre Lebrun qui annonce que Jerry Johansson est en train de dire à un peu tout le monde que les négociations avec Brendan Gallagher sont rompues pour l'instant. Et tout ça... Après que Marc Bergevin fait les deux ajouts le plus importants qu'il a fait depuis longtemps, en Josh Anderson et Tyler Toffoli, a vraiment changé l'allure de son équipe et particulièrement son groupe d'attaquants. Alors, on est rendu à un point où, tu sais, il y a 5 attaquants sous contrat pour l'année 2021-22, mais je pense que ce qui est important à retenir en ce moment, c'est que pour Marc Bergevin, Tout son focus, toute son concentration, c'est sur la saison 2020-2021. Puis à son avis, il y a une équipe qui est très intéressante, il y a une équipe qui est très compétitive, puis il y a une équipe qui a une véritable chance de faire quelque chose en série éliminatoire avec le gabarit qu'il vient d'ajouter, avec les habiletés, avec toutes les boîtes qu'il a cochées. Tu sais, il a parlé de 4 boîtes qu'il fallait qu'il coche dans cette saison morte-là. Oui. Un gardien auxiliaire, il y en a peut-être le meilleur de la Ligue nationale en Jake Allen, il est payé comme tel. Un attaquant de puissance en Josh Anderson, un scoreur en Tyler Toffoli, puis du gabarit en défense en Joel Edmondson, puis les a toutes cochées, puis il est pas mal satisfait avec son travail. Toi, es-tu satisfait avec le travail de Marc Bergevin?
Oui, assurément. Écoute, moi, j'ai toujours eu, depuis le moment de la signature de Joel Edmondson, une certaine réticence à son endroit. Disons que je vais attendre de le voir à l'œuvre pour pouvoir me faire une tête davantage. J'ai pas le goût de dire « Ah, c'était une erreur » ou bien « Ah, c'est un coup de génie ». Jake Allen, j'étais tout à fait en faveur de cette transaction-là parce que Bergevin, tu le mentionnes, avec tous les contrats qu'il va avoir à négocier la saison prochaine, avait besoin d'un gardien auxiliaire d'expérience pour un an. visiblement parce que par la suite, il va se tourner vers Caden Primo. Et des bons gardiens auxiliaires disponibles seulement pour un an, ben, il n'y en avait pas des tonnes. Sur le marché des joueurs autonomes, tu en avais des bons gardiens de but, sauf que les convaincre de venir jouer chez toi pour être le second de Carey Price pour un an seulement, ça c'était pas nécessairement les arguments de vente les plus faciles à faire passer. Donc, j'étais tout à fait en faveur de l'acquisition de Allen. La transaction qui a envoyé Max Domi à Columbus en retour de Josh Anderson, je pense que le profil de joueur que le Canadien est allé chercher avec Josh Anderson, c'est surtout ça, plus que je pense qu'une quantité X de buts ou de points que les Blue Jackets et le Canadien s'échangent. Je pense que c'était l'intention était de changer le mix, comme on dit en hockey, là, de vraiment d'avoir quelque chose, un élément différent dans le groupe d'attaquants du Canadien. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est réussi. On va peut-être avoir l'occasion de reparler un peu plus des termes de son contrat. C'est sûr que la pilule est un petit peu plus difficile à avaler au niveau de la longueur de l'entente. Mais bon, écoute, je pense que c'est pour en arriver à avoir un montant annuel moyen de 5,5 millions, ben peut-être que c'est ce que ça a pris pour pouvoir... il fallait donner 7 ans pour pouvoir obtenir ça, sauf que Josh Anderson avait vraiment tout le pouvoir de négociation là-dedans. Et Tyler Toffoli, écoute, c'est... je trouve que dans les circonstances, un très bon ajout. Il était dans une braquette d'attaquants là, avec Mike Hoffman puis Evgeny Dadonov. J'ajouterais peut-être là-dedans Craig Smith. Donc, quatre attaquants qui étaient peut-être juste en dessous de Taylor Hall, mais en haut de la majorité des autres attaquants disponibles. Je suis content que le Canadien ait mis la main sur un de ces gars-là. Toffoli ne coûte pas les yeux de la tête au Canadien à 4,25 millions par année. Et c'est un gars qui, même s'il n'a pas la gâchette de Mike Hoffman, risque beaucoup moins de te faire mal défensivement. Parce que Mike Hoffman, c'est sûr que ça aurait été bien le fun d'avoir son tir sur réception en avantage numérique. Mais tous les buts qu'il t'apporte à ton équipe, son manque de défensive les redonne à l'autre équipe aussi. Tandis qu'avec Tyler Toffoli, tu n'as pas vraiment cette inquiétude-là.
Non, effectivement, un gars qui a grandi dans l'organisation des Kings de Los Angeles jouera jamais comme ça, puis on a parlé aujourd'hui en termes de la bonne façon à jouer, que tout le monde au hockey aime dire ça, mais effectivement, la bonne façon de jouer au hockey, c'est de jouer dans les deux sens la patinoire, puis je pense que Toffoli est quand même assez fiable à ce niveau-là, puis il faut l'être pour jouer dans un rôle de top 6 à Los Angeles pendant le nombre d'années qu'il l'a fait. Et tu sais, une chose sur le contrat de Toffoli puis le contrat d'Anderson, tu sais, je veux juste mentionner ça parce que tu sais, je pense que tout le monde, moi inclus, a été un peu surpris de voir que 7 ans pour Josh Anderson, c'est beaucoup, particulièrement dans ce climat-là. Il y a seulement Torrey Krug et Alex Pietrangelo qui ont signé des contrats, et Jonas Brodin sont les quatre joueurs en fait depuis que la pandémie a forcé la Ligue nationale d'arrêter ses activités en mois de mars. Ce sont quatre joueurs qui ont reçu des contrats de 7 ans et Josh Anderson en est un, puis c'est le seul des quatre qui n'était pas... Brodin aussi, mais c'est quand même... Ça montre à quel point le marché a changé. Tu sais, c'est pas toutes les équipes qui sont prêtes à offrir 7 ans à quelqu'un, sauf que je dirais que le contrat de Josh Anderson prend fin quand lui va avoir 33 ans. Le contrat de Toffoli termine quand lui va avoir 32 ans. Ouais. La différence en salaire annuel entre les deux, c'est 1,25 million de dollars. Mais il semble avoir une certaine consensus que le contrat de Toffoli, c'est une aubaine et le contrat d'Anderson, c'est une erreur. Et je dirais que oui, c'est vrai que c'est un grand risque. Un contrat de 7 ans, je suis d'accord.
Ben, c'est un risque, mais c'est pas une erreur.
C'est un risque, mais c'est pas une erreur. Puis c'est un risque qui est pas beaucoup plus élevé que le risque qu'il prend avec Toffoli. Parce que moi, c'est pas la longueur de l'entente que je regarde. Je regarde l'âge du joueur quand l'entente va se terminer. C'est ça plus surtout que je regarde, moi. Puis tu regardes, Toffoli aura 32 ans, Anderson aura 33 ans. Alors on verra. Ça se peut que les deux soient moins bons dans 3-4 années. Ou bien en fait, dans 2-3 années. Mais je pense pas que c'est... Je pense pas que le risque est aussi élevé avec Toffoli que ça l'est avec Anderson, juste à cause de ça, juste à cause de l'âge où le contrat se termine.
Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. C'est tout à fait. Je pense qu'il y a une crainte au niveau du style de jeu aussi de Josh Anderson, le fait que bon, il a eu une grave blessure à l'épaule qui a nécessité une opération. Je pense qu'au niveau de la longévité, il y a certaines craintes. J'avais posé la question la semaine dernière à Marc Bergevin parce que Je faisais remarquer qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui étaient étiquetés comme des attaquants de puissance dans les dernières saisons, qui avaient signé des ententes à long terme, des gars comme Andrew Ladd, David Backes, Nathan Orton, David Clarkson, etc., Milan Lucic également, tous des gars qui finalement n'ont pas été à la hauteur du contrat qu'ils ont signé avec leur équipe respective. Mais dans son cas, dans le cas d'Anderson, Bergevin dit ben, une des choses qui le distingue de tous ces gars-là, entre autres, c'est son âge et son coup de patin. Donc, et je pense que là-dessus, c'est intéressant de voir. C'est vrai que pour un gars de son gabarit, Anderson a tellement un coup de patin intéressant qu'il est probablement plus à même de continuer à suivre le rythme dans la Ligue nationale à mesure qu'il prend des années, comparativement à des gars qui rapidement se sont mis à avoir à traîner des pianos sur leurs épaules.
Oui, puis effectivement, tu sais, en parlant de style de jeu et longévité, je pense qu'on devrait parler un peu du dossier de Brendan Gallagher. Okay? Tu sais, j'ai fait mention aux nouvelles que Pierre Lebrun a sorties, que Jerry Johansson, l'agent de Gallagher, l'a informé que les négociations sont rompues pour l'instant. On verra, ça c'est toujours à prendre avec un grain de sel, parce que si un agent veut sortir ce nouvel-là, il y a une raison pour ça. Marc Bergevin en a parlé un peu. J'étais surpris en fait qu'il aborde la question en disant que le mot-clé qui est sorti des lèvres de Marc Bergevin en parlant du dossier Gallagher, en termes très généraux, il faut être clair là-dessus. Là, il ne parlait pas spécifiquement de ce dossier-là, mais il parlait du fait qu'il y a des joueurs qui vont... Ils seront obligés de faire des sacrifices pour rester à Montréal. Et ça, je trouvais ça très intéressant d'entendre Marc Bergevin dire ça après avoir... Tu sais, donner le contrat qu'il a donné à Anderson, donner le contrat qu'il a donné à Edmonton, donner le contrat qu'il a donné à Toffoli.
Ouais.
Puis après ça, d'aller dire à un gars qui a été repêché par le Canadien, développé par le Canadien, a donné cœur et âme au Canadien pendant des années très maigres à Montréal, pour dire, OK, là, c'est à toi de prendre le sacrifice, c'est à toi de faire le sacrifice pour rester à Montréal. Mais moi, j'ai donné tout cet argent-là à ces autres gars-là. Mais toi, le gars qui a le CH tatoué au cœur, toi, il va falloir que toi, tu fais un sacrifice, et peut-être même Philippe Dano va le faire aussi. Comment tu vois cette situation-là évoluer dans la prochaine année, étant donné que les Canadiens ont 5 attaquants sous contrat pour l'année 2021-22, puis ont 25 millions sous le plafond salarial, puis il y a des gars comme Gallagher et Dano qui vont avoir besoin d'un contrat?
Écoute, c'est très problématique, je trouve, parce que je comprends le point de vue de Bergevin de dire ben on va être serré contre le plafond salarial, faut que tout le monde fasse sa part. Sauf que en même temps, il y a comme tu le dis, surtout Gallagher, sa part, il l'a déjà fait beaucoup. Puis je pense que tu sais, il y a toujours une question de savoir est-ce que tu vas payer un joueur pour ce qu'il va t'apporter dans l'avenir, ou bien est-ce que d'une certaine manière, surtout chez un joueur qui fait partie d'une organisation depuis longtemps, est-ce qu'à quelque part, ton contrat aussi, tu veux aussi refléter ou reconnaître ce qu'il t'a donné jusqu'à maintenant? Puis je pense qu'il y a quand même une part de ça chez Gallagher, de reconnaître le fait qu'il a produit comme un marqueur de 30 buts au courant de cette dernière saison, puis qu'il est, de l'aveu même de Bergevin, celui qui entraîne les autres sur le champ de bataille, celui qui stimule le plus ses coéquipiers pour aller au front. Donc, c'est un élément que tu valorises. Bergevin lui-même nous a dit il y a quelques semaines à peine, on prévoit que Brendan Gallagher devienne l'attaquant le plus payé de notre équipe. Est-ce qu'il est encore capable de dire ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais le contexte, le plafond, au moment où il a dit ça, le plafond salarial, on savait déjà qu'il était de 81,5. On savait qu'il allait le rester pour 2 ou 3 ans. C'est simplement qu'en cours de route, il y a des décisions que Bergevin a prises qui peut-être le placent en position plus difficile. Sauf que je trouve que, surtout dans les négociations par rapport à Gallagher, ça devient problématique parce que si tu dis, ben OK, on va passer la saison avec lui, puis on va voir où ça nous mène, ça risque de créer une impression assez étrange dans le vestiaire, parce que Gallagher est un joueur qui est extrêmement respecté, puis tu voudrais pas que le reste de l'équipe se dise, voyons, comment ça se fait que nos dirigeants sont pas en mesure de lui démontrer le respect qu'il a mérité, qu'on lui qu'on lui donne. Alors, est-ce que si jamais il y a une impasse, est-ce qu'on va simplement dire, ben, on va se tourner, ça marchera pas, fait qu'on va dans le fond essayer de voir si on pourrait pas échanger Gallagher? Je sais pas, mais je trouve que c'est une en très peu de temps, c'est une situation qui m'a l'air d'avoir dérapé.
Oui, un peu, mais premièrement, on s'entend qu'il y a beaucoup de temps avant que Gallagher soit joueur autonome sans restriction. C'est sans compensation, je veux dire. Ça, tu sais, une autre année, on ne sait pas quand la prochaine saison va terminer, mais d'ici un an, il va être joueur autonome. La différence, et c'est un peu ça que, tu sais, je reviens à mon point où le contrat se termine pour Anderson et Toffoli. Moi, s'il fallait que je devine, puis juste pour être clair à tout le monde, j'ai aucune idée de ce qui se passe avec les négociations sur Brendan Gallagher. Sauf que tu regardes le contrat pour Toffoli qui termine à l'âge de 32 ans, le contrat pour Anderson qui termine à 33 ans. Gallagher va avoir 29 ans quand son contrat va venir à échéance. Ça se peut que le vrai litige ici, c'est pas le salaire annuel, mais c'est le nombre d'années. C'est le terme du contrat. C'est vraiment combien d'années il veut signer Gallagher. Puis moi, ça me surprendrait pas du tout que Bergevin a évalué que pour les attaquants de ce type-là, de ce style-là, l'âge de 32, 33, peut-être même 34 au gros max, c'est un peu la limite pour ces joueurs-là. Ils deviennent moins efficaces rendus là. Et peut-être que le problème avec Gallagher, c'est pas le fait que Bergevin veut lui faire le joueur le mieux payé du Canadien. Il a juste besoin de se rendre à 6 millions de dollars par année ou techniquement à 5,75. C'est pas très élevé comme chiffre en termes annuels, mais en termes de nombre d'années, je suis sûr que Gallagher aimerait ça avoir un contrat à très long terme qui va le rendre à un point de sa carrière où il pourrait juste prendre des contrats d'un an ou quoi que ce soit. Tu sais, il aimerait ça terminer sa carrière avec le Canadien. Puis ça ne me surprendrait pas que Marc Bergevin soit un peu moins enthousiaste d'offrir un contrat de 6-7 ans à un gars comme Brendan Gallagher juste à cause de ce style-là et à cause de l'âge qu'il aura. Tu sais, s'il signe un contrat de 6 ans, il va avoir 35 ans au terme du contrat. Et peut-être c'est ça où ça bloque dans la négociation. Je sais pas, je spécule, là, mais ça me surprendrait pas étant donné ce qu'on a vu avec les contrats de Toffoli et Anderson. Anderson qui a 26 ans, Toffoli qui en a 28, Gallagher qui va en avoir 29. Je pense que l'âge au fin du contrat, ça doit être une préoccupation pour Marc Bergevin en ce moment.
Mais tu sais, quand je disais quand tu disais qu'il n'y a pas d'urgence, il reste beaucoup de temps pour la négociation, ça c'est vrai. C'est vrai surtout dans la perspective du Canadien. Mais si je me place dans la perspective du joueur, ou même de son agent, là, tu regardes le marché des joueurs autonomes à l'heure actuelle, et le meilleur joueur qui est disponible sur le marché, le meilleur attaquant, c'est Yevgeny Dadonov. Après ça, c'est Mike Hoffman. C'est des gars qui n'ont pas encore signé. Si dans la circonstance actuelle, l'agent dit OK, ben là, les négociations vont nulle part avec le Canadien. Si lui veut forcer la note, puis se dire, dans le fond, mon client, s'il était pour changer d'organisation maintenant, alors qu'il reste un an à son contrat, mais qu'il est déjà en position de pouvoir signer une prolongation avec le Canadien ou avec une autre équipe ou, à laquelle il serait échangé, ben il y a une équipe qui aurait certainement été intéressée de mettre la main sur lui parce que instantanément, il deviendrait bien meilleur que n'importe quel Dadonov ou Hoffman qui est présentement sur le marché. Alors, c'est sûr qu'il reste une année à prix modique, une année de contrat à prix modique quand même à écouler. Donc, je pense que c'est aussi de voir que, étant donné que les équipes sont de plus en plus pressées contre le plafond salarial, qu'il y a moins d'argent dans le système, c'est peut-être une façon de dire de quelle manière est-ce que mon client pourrait réussir à avoir le contrat qu'il veut avoir. Sans nécessairement passer par le chemin de l'autonomie la saison prochaine. Si tu peux provoquer une transaction, puis là, je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, c'est de la pure... Je vais juste me placer dans les souliers de l'agent et penser à voix haute. Sauf que si jamais tu es dans une impasse, tu te dis, ben, ce serait préférable, dans la circonstance actuelle, avec ce qui est disponible sur le marché, d'essayer de signer un contrat maintenant plutôt que d'attendre l'été prochain, qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui va pendre au bout du nez de Brendan Gallagher?
Oui, je suis d'accord. Puis effectivement, on s'entend que l'agent est en train de faire quelque chose. OK, on ne peut pas savoir c'est quoi exactement son intention, mais il essaie de bouger de faire bouger le dossier puis mettre de la pression sur Marc Bergevin, ça, c'est clair. Ça, on s'entend là-dessus. Oui. Il y a une raison pour laquelle il a décidé de sortir cette nouvelle-là aujourd'hui, le jour même ou le jour après que Tyler Toffoli soit signé son contrat, quelques jours après que Josh Anderson a signé son contrat. Puis lui, il y a un client qui est là, qui est sûrement en train de dire « Bon, ben, what about me? » Tu sais, c'est comme « Qu'est-ce qui se passe avec moi? » C'est un peu, c'est très similaire, en fait, à la situation d'Alex Pietrangelo à Saint-Louis, que lui a vu que les Blues font un échange pour Justin Faulk, puis consentit tout de suite un contrat de 7 ans qui avait aucun sens, mais qui est là. Ils font un échange pour Marco Scandella, lui signe tout de suite un autre contrat qui a aucun sens, mais voilà, il est là. Et là, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'argent pour Alex Pietrangelo, puis il est en plein milieu de négociation, ou en tout cas, il est en train de voir ses options. Puis tout d'un coup, les Blues sortent et ils signent Torrey Krug, puis il ne reste plus d'argent pour Pietrangelo. Doug Armstrong, il a l'audace de sortir et dire « Bon, ben on espère qu'on pourrait quand même faire quelque chose avec Pietrangelo. » Quand il est déjà au-dessus du plafond salarial, il y a un joueur comme Vince Dunn à signer, puis Alex Pietrangelo doit être là en train de dire « Bon, ben ça vaut rien ce qu'on a fait ensemble pendant toute ma carrière, là. Ça vaut zéro. Et moi, dans les souliers de Brendan Gallagher, ça serait un peu ça que je serais en train de dire, tu sais, comme prends soin de moi avant que tu ailles chercher d'autres gars. Et il doit être super content que l'équipe s'est améliorée au point où Marc Bergevin a amélioré le Canadien dans les dernières semaines. Mais en même temps, il doit être en train de se dire, ben voyons donc, il reste plus d'argent. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Et pourquoi c'était prioritaire pour toi d'aller chercher d'autres gars avant de prendre soin des gars qui sont allés à la gare avec des équipes qui étaient médiocres et ont tout donné pour cette équipe-là? Pourquoi c'est moi qui dois attendre? Pourquoi est-ce que eux autres sont la priorité sur moi? Je pense que sans savoir, sans avoir parlé à Brendan, ça doit être un peu ça qui est en train de ressentir en ce moment.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est un élément... C'est un argument plus émotif. Si on regarde, par exemple, la situation de l'échange de Domi et Anderson, ça a été un joueur autonome avec compensation admissible à l'arbitrage contre un joueur qui était exactement dans la même situation. Alors, le cas de Domi était urgent à régler. Le Canadien l'a échangé contre un joueur qui est dans la même situation, mais qui aurait très bien pu, dans les jours suivant la transaction, réclamer, se prévaloir de son droit à l'arbitrage. Alors, c'était le contrat le plus urgent à régler parce que c'est pas un gars dont le contrat finit la saison prochaine puis qu'on a des mois à négocier pour en venir à une entente. Il fallait que ça se règle dans le plus court délai. Fait que je comprends que d'un point de vue émotif, on se dise, ben, prends soin de ton monde en premier, tu nous valorises, on a donné beaucoup pour toi, prends soin de nous en premier, je veux bien. Mais au niveau de l'urgence logique de la chose, c'était normal qu'il s'attarde d'abord et avant tout, je pense, sur le contrat d'Anderson. Et en principe, un gars comme Toffoli à 4,25 millions, ça ne devrait pas venir tout chambouler la structure salariale de ton équipe. C'est pas amener Taylor Hall dans ton organisation. Ça, là, c'est un gars qui... C'est quand même un ajout qui pourrait être un bon rapport qualité-prix. On verra comment ça va tourner. Mais, tu sais, tout à l'heure, tu me disais, ben, comment tu vois, quel impact tu penses que ça va avoir? Moi, probablement que dans le cas de Gallagher, les choses vont finalement rentrer dans l'ordre parce qu'on le sait à quel point Marc Bergevin valorise Brendan Gallagher, mais je pense que la situation devient peut-être un peu plus inquiétante pour un gars comme Philippe Danault, par exemple, qui pourrait très bien passer la dernière année de son contrat, puis après ça, dépendant des progrès qu'auront fait Kotkaniemi et Suzuki, ben, qu'on se tourne vers les deux jeunes, qu'on dit, bon, ben là, vraiment, là, voici les clés de la voiture, puis le vétéran, ben, désolé, mais là, tu vas devenir une victime de nos restrictions budgétaires.
Oui, puis juste pour être clair, là, oui, c'est vrai que l'argument que j'ai fait, c'est un argument émotif, mais j'essayais de me mettre dans les souliers de Gallagher, puis qu'est-ce qu'il pourrait penser dans les circonstances actuelles. Je suis entièrement d'accord, c'était urgent de régler le contrat d'Anderson avant qu'il soit capable de soumettre son nom pour l'arbitrage salarial et avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Tu sais, Bergevin avait besoin de savoir combien d'argent est-ce que j'ai pour dépenser sur un Tyler Toffoli, par exemple, avant que le marché s'ouvre, puis, tu sais, Mais encore une fois, tu sais, de mettre dans les souliers de Gallagher et de mettre dans les souliers de Pietrangelo aussi, c'était que, OK, là tu règles plein d'autres affaires. Est-ce que ce serait pas mieux de régler mon affaire en premier, puis après ça, voir combien d'argent qui te reste, au lieu de faire l'inverse? Tu sais, c'est du point de vue du joueur, c'est une question de priorité. Tu sais. Alors, tu sais, Jeff Petrie a déjà eu son contrat. C'est réglé. C'était le premier priorité de Marc Bergevin. C'est fait. Ça a pris quelques jours, en fait, ou une couple de semaines, ou whatever. Puis après ça, alors, je blâmerais pas vraiment Brendan Gallagher pour penser rendu là, qui est très bas sur la liste des priorités de Marc Bergevin, malgré ce qu'il a dit auparavant en disant qu'il y a des joueurs qui sont très difficiles à remplacer. Je pense que tout le monde a pris pour acquis qu'il parlait de Dano et Gallagher. Je pense, en regardant la tournure des événements les dernières semaines, il parlait plutôt de Jeff Petrie que d'autres choses. T'sais. Alors là, il est rendu dans une situation où il vient de faire l'acquisition d'une aile droite en Josh Anderson. Il a fait une autre acquisition d'une aile droite, Tyler Toffoli, qui est capable de jouer à gauche, mais quand même principalement un ailier droite. Il y a Cole Caulfield qui joue à droite, qui s'en vient à un moment donné, qui est plus petit comme joueur, même gabarit que Gallagher. Puis il y a Gallagher qui joue à droite aussi. Alors, à un moment donné, il faut penser que qu'est-ce qui va se passer ici? Comment est-ce que tout ça va être réglé? Je pense que pour l'instant, c'est pas un problème, parce qu'avoir trois trios avec un ailier droit comme Gallagher, Anderson et Toffoli dans n'importe quel ordre, ça c'est une bonne affaire. Le Canadien est bien servi par ça pour un an. Mais dans l'avenir, avec les espoirs qui s'en viennent, avec toute la planification qui doit aller dans le développement de ses espoirs puis l'intégration de ses espoirs sur l'équipe. Puis Marc Bergevin, je trouvais ça très intéressant aujourd'hui quand il a répondu que oui, effectivement, en 2021-22, il n'y a pas le choix que de graduer ou d'intégrer des jeunes qui sont sur leur contrat d'entrée dans l'équipe à cause de son gestion du masse salariale. Alors, c'est fort probable qu'on va avoir plus de jeunes sur l'équipe en 2021-22, étant donné le fait qu'il y a si peu d'attaquants sous contrat déjà. Il y a ces cas-là de Gallagher, Dano, même Tatar et Armia qui doivent être réglés. Lekkonen aussi. C'est quand même, il y a beaucoup de flexibilité pour le Canadien, puis il y a beaucoup d'incertitudes pour ces gars-là. Et c'est ça la situation. C'est un peu désolant que c'est rendu ici avec un gars comme Gallagher qui sincèrement adore jouer à Montréal. Il a joué pendant 6 ans sur un contrat. Il rentre dans son 6e année d'un contrat à prix très modique, qui était vraiment une aubaine autour de la Ligue en termes de rapport qualité-prix. Et il n'y a même pas un gars qui sent amer là-dessus. C'est un gars qui apprécie le fait qu'il a signé ce contrat au moment où il l'a signé, à cause de toutes les blessures qu'il a connues après. Et alors, c'est pas un gars qui est nécessairement... c'est un peu comme Max Pacioretty l'été, où il était comme, OK, j'ai joué à une aubaine pendant tel nombre d'années, là, je vais être payé, puis je vais être compensé un peu pour avoir joué, pour avoir été sous-payé pendant des années. J'ai pas l'impression que Brendan Gallagher a cette thinking-là. La dernière fois qu'on l'a parlé, il a même dit, écoute, ma prochaine contrat, peu importe ce que c'est, je vais quand même avoir des millions de dollars, je vais jamais avoir un problème d'argent.
Ouais.
C'est pas quelque chose que tu entends un joueur dire trop souvent, sauf si t'es un joueur qui veut vraiment rester où tu es, puis je pense que c'est le cas avec Gallagher. Alors, vu de ce point de vue-là, je trouve ça un peu désolant qu'on ait rendu au point où on est en train de parler de ça comme on est en train de le faire en ce moment.
Ben écoute, peut-être qu'il y a des, tu sais, il y a des façons d'aménager le plafond salarial pour faire en sorte, ou la masse salariale de l'équipe plutôt, pas le plafond, mais la masse salariale de l'équipe, pour faire en sorte que tu vas trouver une place pour donner à Brendan Gallagher le genre de contrat qui va le satisfaire et avec lequel l'équipe va être à l'aise. Quand on parle de sacrifice, tu sais, je pense que les gens, les amateurs regardent la masse salariale de l'équipe et se disent oh ben Tatar ne reviendra pas la saison prochaine. Ce serait donc bien si on trouvait une façon d'échanger le contrat de Paul Byron. Yoel Armia, c'est vrai qu'il est grand, il est gros, mais peut-être aussi que ça pourrait être une victime. Mais moi, dans tout ça, je pense à un gars comme Arturi Lekkonen, qui, pour l'instant, gagne un salaire tout à fait correct à 2,4 millions, qui va être admissible à l'arbitrage la saison prochaine. Et la saison prochaine, si le Canadien est toujours intéressé à ses services, va peut-être être en position de dire, ben là, on va... on va essayer de l'embaucher pour plus qu'un an. Est-ce que, dans le fond, Lekkonen, ce ne serait pas un gars que tu pourrais échanger dès maintenant pour te donner de l'oxygène en dessous du plafond salarial dès maintenant, puis après ça, en même temps, te dire, ben, on voit déjà que l'année prochaine, ça pourrait être un gars qui, au niveau de sa prochaine négociation de contrat, ça pourrait être problématique. Alors, dans le fond, si tu dis, ben, on va laisser de côté Lekkonen, qui est un gars qui jouerait soit sur notre troisième ou notre quatrième trio, et on investit, on s'assure d'avoir suffisamment d'argent pour payer un gars comme Gallagher, ça pourrait être une façon de contourner le problème puis de s'en tirer, peut-être.
Oui, peut-être, mais encore une fois, je pense. T'sais, le problème principal avec Gallagher, c'est le nombre de... à mon avis, c'est probablement le nombre d'années. Et peut-être pas nécessairement le montant d'argent. Et dans ce sens-là, échanger Arthur Lekkonen aide pas ce problème-là. T'sais, c'est une question, je pense... T'sais, s'il fallait que je devine, ce serait une question de philosophie en termes de du prime d'un joueur, t'sais, les années où il peut être vraiment efficace. Et accepter le fait que c'est tout contrat que tu signes, c'est fort probable que un ou deux années à la fin, ça va être un peu surpayé pour ce joueur-là, mais c'est une réalité de joueur de signer des joueurs autonomes qu'il faut un peu accepter comme directeur général. Mais c'est ça. Moi je pense pas que Marc Bergevin va échanger Arthur Lekkonen parce que c'est quand même un joueur qui est tellement utile en tellement de phases de jeu, puis c'est un gars que tout le monde chiale parce qu'il est pas capable de mettre la rondelle dans le filet, mais rendu en arbitrage, ce qualité-là, ça aide l'équipe, tu sais, c'est comme si avoir un gars qui est pas capable de le mettre dedans quand tu te rends dans un cours d'arbitrage, ça t'aide beaucoup. Alors, je pense qu'il pourrait avoir Lekkonen quand même pendant quelques années de plus à un prix assez raisonnable ou modeste, mais, et puis c'est tellement un gars que les équipes aiment. Tu sais, je regarde Lekkonen un peu comme je regarde, tu sais, Radek Faxa à Dallas, un peu. Tu sais, c'est un peu, tu sais, il joue pas au centre comme Faxa le fait, là, mais c'est un peu le même rôle, un peu le même valeur, puis il vient de signer à long terme pour 3,25 par année. C'est un peu comme ça que je vois que Lekkonen va être payé dans l'avenir, là. Alors, mais laissons ça de côté, parce que dans le fond, honnêtement, je pense que ce que Marc Bergevin fait en ce moment, c'est qu'il mise sur la saison prochaine.
Oui.
Tu sais, il était demandé aujourd'hui s'il est comme all-in sur l'équipe, puis il a dit non, pas vraiment. On n'a pas donné des choix de repêchage, on n'a pas donné des espoirs, on a quand même amélioré ce qui est vrai. Mais je pense qu'il est all-in dans le sens où ça passe ou ça casse cette saison, puis si ça casse, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de flexibilité pour changer les choses l'année d'après. Et si ça passe, il y a quand même la flexibilité de garder ce groupe-là plus ou moins intact, puis avancer comme ça avec les jeunes qui s'intègrent en 2021-22. Mais pour l'année qui s'en vient, je pense que je suis très intéressé. Je trouve ça très intéressant, tous les ajouts que Marc Bergevin a fait. Et aussi... En contexte de la section atlantique, tu sais, il y a Tampa Bay qui va perdre des joueurs. Toronto a déjà perdu des joueurs. Il y en a ajouté quelques-uns, mais on a perdu des joueurs importants, tu sais. Et Boston a perdu Torrey Krug. Ils n'ont rien reçu de retour. Tu sais, ils commencent à avoir un peu plus d'équilibre dans la division au moment où le Canadien commence à se renforcer. Je trouve ça très intéressant pour la saison à venir.
Ouais, puis tu sais, quand il dit « je suis pas all-in », je pense que c'est simplement qu'il... C'est comme s'il avait pesé sur le bouton « fast-forward » un petit peu, là, pour se rendre juste au bout, à la section intéressante du film. Parce que c'est pas qu'il mise nécessairement sur l'année prochaine, puis après ça, c'est terminé. Il veut que l'équipe soit... très très compétitive à compter de la saison prochaine, et à partir de ce moment-là, ben, t'as encore tous ces jeunes-là qui sont dans l'écurie du Canadien, dans sa pépinière, puis qui va pouvoir ajouter, que ce soit, tu nommais Caulfield un peu plus tôt, tu sais, je pense que Caden Gooley, tout à l'heure on va avoir en entrevue Simon Boisvert, le spécialiste des espoirs du repêchage, qui va venir commenter le repêchage pour nous. Je présume qu'il va être question de Caden Gooley. C'est un gars qui pourrait très bien être venir donner un coup de main aux Canadiens dans un horizon peut-être de 2 ans, peut-être 3, mais tu sais, il va venir dans pas trop longtemps. Puis il y a d'autres gars aussi, il y a Romanov qui arrive, etc. On connaît la liste des jeunes défenseurs qui vont bientôt venir donner un coup de main aux Canadiens. Donc, c'est comme si, pour reprendre, tu sais, comme à Ottawa, Eugene Melnyk avait présenté son plan de relance en disant que à partir de 2022, on allait entrer dans une ère de succès sans parallèle. Hein? Unparalleled success. Alors, c'est une enflure verbale complètement ridicule. Sauf que, je trouve que, est-ce que le Canadien, dans le fond, se place pas dans une position où, à compter de la saison prochaine, il va être dans son... Il rentre dans sa fenêtre là, de unparalleled success, si tu veux, tu sais.
Ouais. Alors, ouais, sauf qu'avec le Canadien, le parallèle est beaucoup plus élevé qu'à Ottawa, là, on s'entend. Mais oui, je pense que oui. Ce qu'il tente de faire en ce moment, c'est donner le meilleur. Tu sais, dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'équipes, non seulement dans leur section, mais partout dans la ligue, les meilleures équipes, tu sais, on regarde Dallas, on regarde les deux finalistes de la Coupe Stanley, les deux sont dans le pétrin en termes de gérer leur masse salariale, de perdre des joueurs. Il y a d'autres équipes de force qui sont en train de perdre des joueurs à cause juste de la réalité de la pandémie puis le plafond salarial qui reste égal, là, qui reste flat. Alors, et Marc Bergevin l'a mentionné, tu sais, il a vu une opportunité d'être agressif, puis toutes les années où il était prudent, puis il a été critiqué pour avoir gardé de l'argent sous le plafond salarial, de ne pas le dépenser comme il aurait dû le faire, selon plusieurs. Ça, c'est son récompense. T'sais. Il ne pouvait pas prédire qu'il va avoir une pandémie, puis que tout l'état financier de la Ligue nationale serait mis en question. Mais étant donné que c'est arrivé, puis il y avait cette flexibilité-là, là, il est récompensé par ça. Et on verra ce que ça donne. Mais tu sais, je me demande... Oui, il y a beaucoup d'espoir en défense qui s'en vient. Mais en attaque, c'est un peu plus... C'est pas aussi bien garni que je pensais. Parce que tu mentionnes Cole Caulfield... Même là, il y a des questions concernant Cole Caulfield puis comment ses qualités de joueur vont se traduire dans la Ligue nationale. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation chez les attaquants espoirs du Canadien. Tu penses à Ryan Poehling en ce moment. On n'est pas certain comment il va être, mais c'est probablement un bottom six forward, comme on dit. Jesse Ylönen, il y a du potentiel, c'est sûr, mais il y a des points d'interrogation. Un gars comme Jacob Olofsson qui va plus ou moins bien en Suède. Alors, c'est vrai que, tu sais, pour revenir au sujet de Brendan Gallagher et Dano et tout ça, toutes les choses qui vont arriver, il y aura peut-être un peu moins d'options en termes de remplacer ces gars-là avec des espoirs dès 2021-22 qu'il y aura peut-être en défense. Je sais pas. Alors, ça va peut-être entrer en ligne de compte que dans la gestion de Marc Bergevin.
Ben, effectivement, il y aurait raison d'y voir parce que c'est vrai que la banque d'espoir en attaque est beaucoup plus mince. On verra si les attaquants qui ont été sélectionnés cette année seront à même de venir faire une différence. Des gars comme Yann Majchak qui a été repêché en deuxième ronde au repêchage il y a 2 semaines. La semaine dernière, dis-je. Je sais même plus. Ouais. Hein? On est dans un vacuum temporel complètement délirant.
Ben, c'est ça.
Mais d'ailleurs, ouais. Parlant des espoirs du repêchage, on s'est entretenu avec Simon Boisvert, qui était passé au Super Athlétique il y a quelques semaines, plutôt cet été, pour discuter de la QV de cette année. Alors, on fait avec lui le bilan du repêchage de cette saison. Alors, restez à l'écoute. Après ce court message, après cette pause, on revient avec Simon Boisvert.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Alors, tel que prévu, notre invité au Super Athlétique cette semaine, Simon Boisvert, qu'on retrouve, qui était notre invité il y a quelques semaines, plus tôt cet été. Alors, et là, Simon va venir nous commenter le repêchage. Re-bienvenue au Super Athlétique, Simon. Ça va bien?
Ben, ça va bien. Merci, vous, messieurs. Toujours un plaisir.
Ben oui, merci beaucoup.
Ah, ça va super bien. Merci d'être avec nous encore, Simon.
Oui, absolument. Écoute, je vais te lancer la question de front et de manière toute simple et toute générale. Quelle est ton impression générale du repêchage auquel on a assisté la semaine dernière?
Je pense que ça s'est passé pas mal comme prévu. Si tu te rappelles, de façon consensuelle, les gens qui analysent le repêchage avaient identifié à peu près une dizaine de joueurs qui devaient sortir les 10 premiers. Et c'est ça qui est arrivé finalement. C'est juste que l'ordre peut-être est un petit peu différent selon les listes. Mais en général, les 10 premiers noms qui sont sortis étaient les 10 noms sur les listes à peu près tout le monde.
Exact. Je pense qu'on s'attendait aussi à ce que le gardien de but Askarov ne soit pas loin derrière ces 10 joueurs-là, avec la possibilité qu'il puisse s'insérer aussi dans le top 10 selon l'évaluation d'une équipe ou d'une autre.
C'est ça. Mais finalement, il est sorti 11e.
Oui.
Alors, c'est ça. Les clubs se sont probablement dit, bon, après ce groupe-là, là, on va y aller avec le gardien élite, parce qu'après ça, il y avait quand même une certaine baisse dans la qualité des joueurs là, dans le repêchage après Askarov.
Oui. Est-ce que ça t'a étonné de voir Cole Perfus? C'est que, tu sais, évidemment, quand on a eu il y a eu un débat autour de la présence du Canadien en séries éliminatoires et du fait qu'il batte les Penguins de Pittsburgh, on se disait, bon, est-ce que le Canadien, en remportant sa ronde qualificative, cède son 9e rang au repêchage, recule au 16e. Et là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'au 9e rang, il y avait toujours Marco Rossi et Cole Perfetti qui étaient disponibles. Avoir un gars comme Perfetti qui était disponible qui aurait pu être disponible pour le Canadien au 9e rang, est-ce que tu juges que c'est vraiment c'est là où ça fait le plus mal finalement pour le Canadien qu'il ait participé à sa première ronde des séries éliminatoires?
Oui, parce que j'avais Perfetti 3e sur ma liste.
Ouais.
Alors, ouais, c'est sûr que pour moi, la seule peut-être mini-surprise du top 10, c'est que Perfetti soit sorti 10e. Alors, pour le Canadien, je ne sais pas lequel des deux ils auraient pris, entre Rossi et Perfetti, mais on peut présumer que ça aurait été un des deux. Mais Perfetti, là, je pense que Perfetti pour 10-12 ans à Montréal, ça aurait bien valu la victoire contre Pittsburgh, là.
Ouais, effectivement, mais c'est drôle à parler de ça parce qu'effectivement, toutes les choses qu'on a vu Marc Bergevin faire sont plus ou moins basées sur ce qu'il a vu dans la bulle à Toronto. Là, c'est l'évaluation de son propre équipe a été un peu basée sur la performance des jeunes à Toronto, puis là, il essaie de renforcer l'équipe, mais effectivement, il a manqué l'opportunité d'ajouter un grand atout. Dans un de ces deux joueurs-là, je suis d'accord que probablement Perfetti serait le choix si le Canadien restait à 9, mais je serais intéressé à savoir qu'est-ce que tu pensais du choix de Caden Gooley au 16e rang avec les joueurs qui étaient encore disponibles à ce point-là et aussi avec juste le nombre de défenseurs que le Canadien ont dans le système. Es-tu d'accord avec ce choix-là?
Ben, écoute, du côté défenseur, ça, c'est pas très, très grave parce qu'on sait que les alignements changent beaucoup au fil des ans. Et puis, un gars comme ça ne sera pas prêt avant 2-3 ans. Donc, pour moi, je n'ai pas vraiment de problème avec la position. Cependant, écoute, au 16e rang, tu peux t'attendre à repêcher habituellement un joueur à peu près du calibre de Caden Gooley. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas un mauvais choix. Cependant, moi, j'ai l'impression que le Canadien n'a pas visé assez haut. Parce que le potentiel, l'upside de Caden Gooley, ben, écoute, c'est un joueur qui patine bien, qui est costaud, qui joue très bien défensivement, mais c'est pas vraiment un joueur créatif avec la rondelle. Alors, tu vas me dire que des joueurs comme ça, on en a besoin dans une équipe. Oui, c'est vrai, on en a besoin. Puis Caden Gooley, je serais le gars le plus surpris du monde s'il devenait pas un régulier pendant 10 ans dans la Ligue nationale. Mais je serais extrêmement surpris s'il devenait un joueur étoile. Mmh. Alors, de ce côté-là, c'est sûr qu'un gars comme Gooley, tu regardes, mettons, un alignement de club champion, il y a de la place pour un gars comme Caden Gooley. Mais si tu mets Caden Gooley dans une équipe correcte, sans plus, c'est pas lui qui va faire bouger l'aiguille.
Ouais. Mais un peu plus tôt, un peu plus tôt cet été, quand on t'était venu au Super Athlétique, tu nous avais dit qu'il y a un équilibre à trouver entre identifier quel est le véritable potentiel d'un joueur et quelles sont les chances que le joueur atteigne ce potentiel-là. Puis il me semble que dans le cas de Goalie, c'est peut-être pas le gars qui a le plus haut potentiel parmi les espoirs qui étaient disponibles, sauf qu'il t'assure, il y a une bonne probabilité qu'il puisse atteindre la Ligue nationale puis rendre de bons services. Est-ce que, dans le fond, au numéro 16, d'être en mesure d'aller chercher un défenseur qui peut devenir ton numéro 4 à la ligne bleue, ça devenait pas un meilleur pari qu'un attaquant qui aurait des chances de devenir un attaquant de deuxième trio, mais qui aurait aussi de bonnes chances de demeurer seulement un attaquant de troisième trio?
Oui, c'est un bon point, puis c'est vrai qu'on en avait parlé il y a 3 mois. Et puis, je te dirais qu'en théorie, sur papier, le choix numéro 16, ça devrait être ça. Mais on sait qu'à chaque année, il y a des joueurs, si on peut dire, qui je te dirais pas qu'ils glissent, mais qui sont encore là, puis qui sont toujours quand même très attrayants. Alors, ça peut être tentant d'y aller pour le potentiel plus que la valeur sûre, même si au numéro 16, comme je te disais, si tu as un gars comme Caden Gooley, tu as fait ton travail. Personnellement, dans la situation du Canadien, j'y aurais été un peu plus peut-être pour la possibilité d'un coup de circuit.
Mm-hmm. Ben, par coup de circuit, est-ce que tu parles plutôt de Dawson Mercer ou Hendrix Lapierre ou Lucas Reichel? Dans le fond, c'est qui tu viserais pour ce coup de circuit-là rendu au 16e rang?
Moi, j'avais deux noms en tête à ce moment-là. J'avais l'ailier Tyson Forster, qui est sorti avec Philadelphie, et j'avais Lapierre également. Alors moi, j'aurais hésité entre les deux, là, j'aurais débattu ça là, avec mon groupe de recruteurs, mais c'est vraiment là, moi, que je me serais aligné, parce que, pas seulement parce que le Canadien a beaucoup de jeunes défenseurs, mais parce que Goulet, je pense, est supérieur à plusieurs des espoirs du Canadien en ce moment, mais simplement pour l'idée de dire, Il y a une coupe pour 31 équipes. À un moment donné, il faut vraiment essayer d'aller chercher les joueurs avec le meilleur potentiel possible. Sinon, on va rester peut-être une bonne équipe, mais on ne deviendra pas une grande équipe nécessairement.
Mais le Canadien avait 3 choix de deuxième ronde. Est-ce que des coups de circuit, on peut en faire également, en essayer en deuxième ronde avec des gars qui ont un talent brut particulièrement notable, mais qui pour une raison ou une autre, justement, ont peut-être moins de chances d'atteindre leur plein potentiel, puisqu'on en voit chaque année des joueurs qui surgissent des deuxièmes rondes, troisièmes rondes et même plus loin dans le repêchage, qui deviennent de véritables attaquants top 6. Puis j'imagine que cette année, avec le repêchage de cette année, ça va être la même chose. Est-ce que le choix de première ronde, c'est le bon moment pour pouvoir faire une tentative de coup de circuit, compte tenu du nombre de munitions qui est à la disposition du Canadien?
Très bonne question. Je te dirais qu'il y a coup de circuit et coup de circuit. Dans le sens que, en deuxième ronde, c'est plus une long shot qu'au 16e rang. Alors, je te dirais qu'un joueur choisi en deuxième ronde, qui est une possibilité de coup de circuit, est plus un long shot, disons, que Hendrix Lapierre, par exemple. Mais le Canadien a quand même essayé d'en faire un coup de circuit en choisissant Yan Michak. Personnellement, je l'avais classé 20e. Mais, comme on s'était parlé il y a 3 mois, on était dans la zone des joueurs, c'est boom or bust, top 6 ou rien. Alors moi, j'ai aimé le choix de Yan Michak pour cette raison-là. C'est sûr que Yan Michak, peut-être que dans 5 ans, il va être en Europe et puis on va dire « Ah, le Canadien a manqué son coup ». Mais moi, j'aime qu'ils aient pris une chance avec un joueur comme ça parce qu'il y a quand même une chance de faire le top 6 un jour, alors qu'il y a d'autres joueurs choisis en deuxième ronde dont les chances sont absolument nulles. Par exemple, le joueur qu'ils ont choisi juste avant, Luke Tuck.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire, mais effectivement, tu sais, ton argument pour un coup de circuit, je trouve très pertinent, en fait, parce que dans le fond, quand on a fait notre mock draft à Athletic, Marc-Antoine et moi, on a consulté pour le choix du Canadien, puis on s'est dit, OK, bon, ben peut-être c'est rendu le moment. Ils ont une banque d'espoir qui sont quand même assez intéressantes, reconnues par beaucoup de personnes comme étant un des meilleurs de la Ligue nationale, au moins en termes de profondeur, peut-être pas en termes de potentiel de super vedette, là, mais quand même, il y a une bonne banque de profondeur, c'est bien équilibré à toutes les positions. C'est le meilleur moment possible pour le Canadien de tenter un coup de circuit au 16e rang du repêchage. Il n'y avait pas une manque flagrante au sein de leur organisation, en train de l'organigramme, toutes les positions étaient un peu remplies, certains plus que d'autres. Mais un joueur comme Hendrix Lapierre, que nous, on a pris dans le mock draft, nous semblait comme étant une bonne risque à prendre, rendu au moment où ils sont. Puis, effectivement, quand tu regardes la façon dont le Canadien se départait, ils donnaient leur choix cette année pour en amener d'autres, ça donne... une idée de à quel point ils ont presque trop d'espoir. Alors, rendu là, pourquoi pas prendre un élan pour un coup de circuit au 16e rang du repêchage? Mais à ton avis, peux-tu décrire comme il faut c'est quoi exactement le risque? À part son niveau de santé et tout ça, y avait-tu un autre risque concernant Hendrix Lapierre que les équipes en prenaient compte, que peut-être nous, en public, on ne comprenait pas trop?
Écoute, si je peux trouver peut-être mettre un bémol dans le jeu d'Hendrix Lapierre, mais encore là, ça se peut que ça ne soit pas un problème. C'est un gars, Hendrix Lapierre, qui joue un peu au ralenti. Il ralentit le jeu. Mais si tu regardes, Nick Suzuki fait pareil et puis ça marche.
Ouais.
Ah, mais il y a d'autres joueurs, quand ils arrivent dans la Ligue nationale, puis ça, on n'aura pas la réponse tant que Lapierre ne sera pas là, il y a d'autres joueurs qui ne seront pas capables de suivre le rythme. Tu sais, comme on dit, « the pace of play ». Alors, moi, je te dirais, c'est peut-être le seul bémol. Sinon, bon, écoute, Lapierre non plus, ça ne sera pas un grand marqueur. C'est plus un fabricant de jeu. Mais là, je fais vraiment là, chercher les bébites. Parce que Hendrix Lapierre a mille belles qualités qui font en sorte qu'il donne l'impression que c'est un joueur qui va avoir du succès. Mais encore là, tu sais, il y a quand même des raisons pour lesquelles le gars a été choisi 23e et il n'est pas sorti top 10. Mais est-ce que c'était uniquement des raisons de santé? Ça, il faudrait faire le tour des recruteurs. Mais j'imagine qu'on voit peut-être plus en lui un joueur de deuxième trio qu'un joueur de premier trio. Puis habituellement, dans le top 10, on essaie de sortir les futurs joueurs de premier trio. Alors, c'est à peu près la seule explication que je pourrais te donner.
Est-ce que il y a eu également, semble-t-il, des discussions... on a évoqué le nom de Maverick Bourque qui a été finalement repêché au 30e rang par les Stars de Dallas. Il était question, il y a eu des rumeurs à l'effet que le Canadien avait essayé de s'avancer pour obtenir un choix en fin de première ronde. Puis on peut présumer que c'était Maverick Bourque qui était bien évalué ou hautement considéré par le Canadien. Si par exemple, ça avait pris deux choix de deuxième ronde pour pouvoir repêcher en fin de première. Donc, par exemple, un choix comme le 47e, celui que Luke Tuck a fourni aux Canadiens, et puis celui qu'ils ont échangé également au Lightning de Tampa Bay, numéro 57, le Lightning est allé chercher Jack Finley. Est-ce que, quand tu donnes deux choix de deuxième ronde, en mi-deuxième ronde, as-tu l'impression que c'est une bonne utilisation ou tu peux convertir ça en vraiment un espoir de bien meilleure qualité en réussissant à rentrer en première ronde?
Ça dépend qui est disponible et ça dépend à quel point tu aimes le joueur. Mm-hmm. Si tu te rappelles, il y a quelques années, il y a des clubs qui avaient fait ça. Je me souviens qu'il y en a même qui descendaient en première ronde parce qu'ils avaient ciblé un joueur et ils savaient qu'il serait encore là. T'sais, alors, ça dépend toujours à quel point tu aimes le joueur en question. Alors, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles comme telles, mathématiques, que deux choix de deuxième, est-ce que ça vaut le 30e choix ou le 29e choix? Je pense que ça dépend à quel point tu aimes le joueur. Mais puis d'une année à l'autre, la qualité des repêchages, d'après moi, rendue à ce niveau-là, est à peu près la même. Alors, c'est juste une question de préférence. Est-ce que je l'aurais fait pour Maverick Bourque? Je pense pas.
OK. Surtout que le Canadien, avec un de ses choix de deuxième ronde, a repêché Yann Meshack, puis tu juges que lui, finalement, valait vraiment le coup. Puis ça devient un choix avec un excellent rapport qualité-prix de l'avoir choisi au 48e rang, ce gars-là.
Oui, oui. Ça, c'est un excellent rapport qualité-prix. Parce que si le Canadien l'avait choisi, je ne sais pas moi, 16e, je ne serais pas tombé en bas de ma chaise.
OK. Ah, oui.
Mais il y a un risque. Mais il y a un risque avec ce joueur-là. Il y a un risque.
Oui. Mais il y a moins de risque au 48e rang que 16e, on s'entend. C'est ça l'affaire là-dedans, ouais.
Il n'y en a pratiquement pas de risque parce que tu vas avoir à peu près 25% des joueurs de la deuxième ronde qui vont faire la Ligue nationale. Mmh. Alors, c'est pas une grosse perte. Mais c'est sûr que, de temps en temps, faut que tu convertisses tes choix de ronde ultérieure en joueurs de la Ligue nationale. Sinon, tu ne peux pas juste signer des agents libres ou faire des échanges, c'est impossible. Mais avec les choix de deuxième ronde, je pense que si tu es capable d'avoir à peu près 40% de succès, 30-40% de succès au-dessus de la moyenne de la ligue, le recruteur a fait son travail.
Je serais très intéressé à t'entendre parler sur le dernier choix de quatrième ronde du Canadien, Sean Farrell, qui était classé un peu partout par différents experts et tout ça, mais c'est clair que c'est un joueur de talent qui est un peu petit, qui a glissé beaucoup. Es-tu de l'avis que c'était un vol, comme Cole Caulfield l'avait qualifié, ou il est sorti plus ou moins où tu t'attendais le voir?
Ouf! J'ai plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'un vol, un vol, ça ne s'avère qu'un vol lorsque le joueur atteint la Ligue nationale et performe. Mmh. Mais en ce moment, on n'en est pas à analyser le repêchage 2020 après 5 ans ou 10 ans. On l'analyse le lendemain que ça a été fait ou presque. Alors, je te dirais qu'en ce moment, oui, ça peut être qualifié de vol au 124e rang. La deuxième chose que je peux te dire, c'est que moi, je l'avais classé fin première ronde. Alors, je l'avais, je pense, 30e sur ma liste. Puis okay. Il est sorti 124. Bon. Puis la troisième chose que je peux dire à son sujet, c'est que je le connais très bien parce que depuis quelques années, moi, je donne un coup de main au Foreur de Val-d'Or pour les choix des joueurs américains de la Ligue junior majeure du Québec. Et je l'avais recommandé et Val-d'Or a repêché Sean Farrell il y a 2-3 ans.
Ah, OK.
Alors, tu prêches aux convertis.
Ouais, c'est ça, exact. Mais alors là, je suis encore plus intéressé à t'entendre parler sur ce joueur-là parce qu'il me semble être vraiment intéressant comme un ajout à ce point-là du repêchage. Qu'est-ce que tu as aimé de lui pour te faire recommander que Val-d'Or le repêche quand tu l'as fait?
Bon, premièrement, lorsque tu recommandes un joueur pour le hockey junior, tu le recommandes pour le hockey junior et non pour la future carrière qu'il va avoir dans la Ligue nationale. Ça, c'est sûr. Alors ça, c'est un joueur, s'il était venu dans la Ligue junior majeure du Québec, il aurait été une véritable superstar. Bon, ceci étant dit, pour la Ligue nationale, c'est sûr qu'il n'est pas grand. Et puis, est-ce que nécessairement il y a le talent d'un Patrick Kane? Non. Donc, ça demeure quand même une genre de long shot pour faire la Ligue nationale un jour. Mais je te dirais qu'il est très, très habile. Il est très habile au-dessus de la moyenne. Et c'est le genre de gars, s'il avait mesuré 5 pieds 11 ou 6 pieds, il serait sorti probablement top 20-25, le maximum. Parce qu'il est très agile, il est très habile avec la rondelle. Il a une vision de jeu incroyable. Il est très vif, là, tu sais, comme on dit, quickness. Alors, j'ai été surpris qu'il sorte 124e quand même. Moi, je m'attendais peut-être autour de 50-60 maximum.
Écoute, j'ai parlé à son directeur général avec le Steel de Chicago parce que Farrell a suivi le repêchage en sa compagnie. Et puis le DG là-bas, la boucane lui sortait par les oreilles. Il ne revenait pas qu'il a attendu jusqu'à la fin de la quatrième ronde pour être repêché. Puis c'était... Il dit ça a été une journée un peu douce amère pour nous parce que on avait certaines anticipations, certaines attentes jusqu'à un certain point par rapport à ce repêchage-là. Puis visiblement, ces attentes-là n'ont pas été rencontrées. Mais il dit en bout de ligne, ça va être au bénéfice du Canadien qui va passer la gratte finalement en ramassant un gars de ce talent-là aussi loin dans le repêchage. Donc, j'ai bien hâte de voir parce que c'est ça, il est trop tôt pour parler d'un vol, mais ça semble être un gars qui, un peu comme dans le cas de Michak, peut apporter un bon rapport qualité-prix.
Ben certainement. Écoute, même si ce gars-là te donne, je sais pas moi, 4-5 saisons sur le troisième trio, ça serait formidable. Là, la question est de savoir comment est-ce qu'il va progresser au cours des prochaines années à l'université. Il s'en va à Harvard.
Oui.
Ça, moi, je suis moins entiché par le fait qu'il s'en aille à Harvard. J'aurais préféré le voir, disons, à Boston University ou Boston College ou, North Dakota, une université peut-être qui est un petit peu plus... où les joueurs offensifs ont plus de chances d'éclore. Donc, moi, c'est la seule réserve que j'ai pour lui. Personnellement, si j'étais le Canadien, bon, tant mieux, le gars s'en va à Harvard, là. Mais personnellement, si j'étais le Canadien, j'aurais essayé de l'orienter vers la Ligue junior majeure du Québec.
Je vois pas pourquoi tu dis ça.
Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Aucun biais. T'es pas biaisé du tout.
Ben, écoute, je suis 50% biaisé, mais 50% sérieux. Pour la bonne et simple raison que je suis pas un fan. Du hockey qui se joue à l'université Harvard, c'est tout. Mais écoute, il y a des bons joueurs qui sont sortis de là quand même. Alors, on va espérer là, que, on va espérer que ça ne nuise pas à son développement.
Est-ce que, je sais qu'au fil des ans, tu n'as pas toujours été un fan de Trevor Timmons, puis tu trouves qu'il y a des choix qui sont soit conservateurs, soit carrément dans le champ. Est-ce qu'il y a un de ces choix cette année que tu dis, voyons, là, à mon sens, il est complètement passé à côté de la traque?
Je te dirais que cette année, il n'y a pas de Michael McCarron ou de Jared Tinordi.
Mm-hmm.
Bon. Si on peut faire une petite récapitulation, tu vois, avec Jack Smith, Blake Biondi, puis Sean Farrell, trois joueurs américains en quatrième ronde, on peut dire que Timmons y est allé pour le talent. Ça se peut qu'il n'y en ait aucun des trois qui perce, mais de ce côté-là, j'ai pas de problème avec ces choix-là. Par contre, le choix de Luke Tuck au 47e rang, je trouve ça un peu désolant. Parce que Luke Tuck, d'après moi, a un plafond de quatrième trio. Et puis ce genre de joueur-là est très facile à obtenir. Il entraîne partout en ce moment, là, si tu regardes les listes de joueurs d'agents libres qui restent. Alors, je pense qu'au 47e rang, il est trop tôt pour choisir un potentiel de quatrième trio. Ça, c'est mon avis. Alors, si je te disais qu'il y avait un choix que j'ai vraiment pas aimé, c'est celui de Luke Tuck.
OK. Qu'est-ce que tu connais à propos vas-y, Arpin.
Ben non, en fait, parce que dans le fond, ce qui m'intéressait aussi, c'est le fait que les Canadiens échangent leur troisième choix de deuxième ronde, ce qui était le 57e choix finalement, puis Tampa a utilisé pour choisir Jack Finley du Spokane, mais il y avait quand même des joueurs quand même assez intéressants qui étaient encore disponibles. Tu sais, je pense à Ronnie Hirvonen que Toronto a pris à 59, une couple d'autres qui ont sorti après. Je comprends qu'il y a une certaine gestion à faire avec le nombre d'espoirs que tu as en banque, puis les contrats qui s'en viennent, puis toute l'affaire. Puis effectivement, les Canadiens ont choisi des joueurs qui s'en vont en université comme presque par règle. Ça s'est avéré comme ça. Mais qu'est-ce que tu pensais du fait qu'ils ont décidé de pas choisir un joueur au 57e rang dans un repêchage qui était aussi avec la profondeur du repêchage qu'on avait cette année?
Ben écoute, ça veut dire qu'eux autres, sur leur liste, il n'y avait plus personne qui valait la peine d'être choisi à ce rang-là. Alors ça, c'est leur raisonnement. Personnellement, moi, je n'aurais pas échangé ce choix-là parce que j'aurais pris Tyce Melanick, que Floride a pris 74e, et qui, d'après moi, a glissé beaucoup. C'est un autre que j'avais choisi en première ronde, beaucoup de talent. Alors ça, je ne comprends pas. Puis l'affaire des contrats, pour juste élaborer un petit peu sur ce que tu as dit, moi, ça me fait toujours un peu sourire, ça, l'histoire des 50 contrats. Parce qu'on dit toujours, ah, faut faire attention, mais quand tu y penses, il y a 23 joueurs dans le grand club, alors ça te laisse 27 contrats pour le club école. Puis, si tu remarques, dès qu'il y a quelques blessés, Laval est obligé de signer des joueurs qui sortent de nulle part pour combler l'alignement. Alors, en quel sens le 50 contrats, il est contraignant? Tu sais, surtout si tu repêches 12, 13, 14 joueurs, tu sais qu'au bout de 2-3 ans, il y en a un paquet qui vont démontrer qu'ils n'ont pas l'étoffe pour jouer chez les pros. Alors moi, j'aimerais mieux repêcher beaucoup de joueurs et démêler ça dans 2-3 ans plutôt que tout de suite me dire « Ah, ben j'ai droit à seulement 50 contrats, donc je vais échanger mon choix de deuxième ronde. »
Ouais.
Ça, là-dessus, je suis pas d'accord. Ouais.
Mais j'ai bien aimé quand même l'explication voulant que c'est en échangeant le choix de deuxième ronde cette année contre un choix de deuxième ronde l'année prochaine, c'est aussi une façon de s'assurer que tu gardes dans ton organisation plus qu'un choix de deuxième ronde pour l'année suivante. Et évidemment, ça peut aider au repêchage, mais ça peut aider dans d'autres circonstances. On sait qu'à la date limite des transactions, les choix de deuxième ronde, c'est souvent une monnaie d'échange qui est très fréquente. Alors, d'avoir au moins ça à la disposition, tu te dis, ben là, si on l'a dans notre poche arrière, rendu à la date limite de transaction, puis qu'on a l'occasion de pouvoir mettre la main sur un joueur, ben on a cet élément-là, puis de cette manière-là, ben il va quand même nous rester un choix de deuxième ronde une fois qu'on va avoir échangé celui-là. Fait que je trouve qu'au niveau de la gestion des actifs, c'est pas si mal quand même.
Ah, sur papier, A+, comme gestion des actifs. Parce que ça dépend toujours qui est-ce que tu as sur ta liste. Alors, si eux autres se disent on n'a plus personne qui vaut la peine en deuxième ronde, c'est une gestion des actifs qui est parfaite. Cependant, faut que tu fasses attention, laisse-en pas passer. Parce que là, dans quelques années, tu sais comment c'est. Des gens comme nous autres, on va sortir la liste, puis on va dire « Ah, comment ça se fait qu'il n'y a pas pris un tel qui est sorti à la fin de la deuxième ou au début de la troisième ronde et qui est devenu bon? » Alors, tu t'exposes un peu à ça en faisant ça, mais c'est sûr que répartir ça d'une allée à l'autre, si tu n'as plus personne sur ta liste, ben, tu te dis, ben, l'an prochain, je vais avoir un meilleur joueur que j'aurais eu cette année. Mais là, à ce moment, là ça devient à ce moment-là, c'est laissé au jugement de Timmins et Bergevin.
Oui, effectivement. Moi, je me demanderais, tu sais, à part les choix du Canadien, y a-t-il un joueur ou une équipe où tu t'es dit, waouh, eux autres, ils ont vraiment bien fait avoir ce joueur-là à ce rang-là? S'il y avait un autre joueur à choisir là, dans tout le repêchage, ce serait qui?
Encore là, je vais donner une réponse pour un joueur, puis je vais donner une réponse pour une équipe. Je pense que le joueur peut-être qui a glissé le plus selon moi et qui a une possibilité de devenir très, très bon, c'est Tyson Forster à Philadelphie.
OK.
Alors, je pense qu'au 23e rang, c'est vraiment très, très bon que les Flyers aient trouvé un joueur comme ça. Bon. Si on va dans les rondes un peu plus loin, ben moi, c'est Martin Kromiak qui est sorti 128e à Los Angeles et que j'avais classé dans mon top 10. Alors, lui, ah oui, ça pourrait être le vol du repêchage. J'espère qu'il va avoir sa chance parce que les Kings ont énormément de bons espoirs. Mm-hmm. Mais encore plus que Sean Farrell, moi, Martin Kromiak, qui est parti 128e, ça m'a renversé. Je pensais qu'il sortirait deuxième ronde maximum. Ensuite, tu me parlais des équipes. Ben, moi, j'aurais voulu peut-être m'attarder deux minutes sur les Hurricanes de la Caroline.
Mm-hmm.
Pourquoi les Hurricanes de la Caroline? Parce que ça fait deux ans que les Hurricanes de la Caroline ont une stratégie très particulière. Ils ne l'ont pas dit publiquement, mais on a juste à regarder leur liste. Ils ne font que choisir des joueurs boom or bust. Autrement dit, tous les joueurs qu'ils ont choisis pourraient se retrouver dans les mineurs ou en Europe dans 5 ans, ou il peut y en avoir 10 là-dedans qui deviennent des très bons joueurs de la Ligue nationale. Ça, je te parle depuis 2 ans.
Ils ne font que choisir
des joueurs comme ça.
Ouais.
Toutes des home runs. Noel Gunler, Ponomarev, Seth Jarvis, Zion Nybeck, toutes des home runs. Et puis, ça se peut que personne perce. Mais à ce moment-là, moi, je suis très, très curieux de suivre l'évolution des espoirs des Hurricanes de 2019 et 2020, parce que ça va être quasiment une étude de cas dans quelques années. Et si ça fonctionne, ça pourra changer complètement la philosophie de repêchage des équipes, parce qu'on sait que c'est une ligue, le sport professionnel en général, puis la Ligue nationale, c'est des ligues de copieurs.
Oui, puis c'est aussi des ligues de vedettes, et ça te prend des vedettes. Alors, dans ce sens-là, particulièrement une équipe comme la Caroline, où ils n'ont pas nécessairement le plus gros budget, ils ne sont pas nécessairement l'équipe le plus attrayant pour aller chercher des joueurs autonomes. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec la stratégie, je suis d'accord que tu les mentionnes, parce qu'effectivement, pour une équipe comme ça, si tu veux avoir des vedettes, il faut les repêcher. Puis pour repêcher des vedettes, des fois, il faut prendre des risques. Là. C'est ça que Caroline a l'air de bien comprendre, cette réalité-là.
Ben, ça revient un petit peu à ce que tu disais par rapport à Luke Tuck tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que des gars qui ont un potentiel de quatrième trio sont faciles à trouver, mais à ce moment-là, si tu ramasses des gars de Ligue américaine, des gars de quatrième trio, ou des joueurs qui, en ce moment, signent des contrats à 950 000, comme Lucas Walmart, par exemple, il y en a partout, tandis que si chaque équipe a, disons, une dizaine de choix à sa disposition, ou entre 8 et 10 choix à sa disposition, je pense que les Hurricanes en ont accumulé plusieurs dans les deux dernières années, ben, une équipe va se dire, si je réussis à avoir à chaque année deux joueurs qui atteignent la Ligue nationale, c'est un succès. Mais si c'est deux sur des élans qui sont des home run swings, ben c'est peut-être 2 en 10, t'as peut-être l'air du gros Steve Balboni qui frappait pas pour son poids, mais au moins t'as sorti la balle du stade 2 fois.
Steve Balboni, c'est bon, Marc-Antoine.
C'est vraiment bon.
Écoute, le meilleur exemple, c'est le 53e joueur qui a été choisi, Vasily Ponomarev, par Caroline, quelques rangs après Luke Tuck. Et Ponomarev, aujourd'hui même, a signé son contrat de 3 ans avec les Hurricanes.
Hey, ça n'a pas été long.
Ouais,
hein?
C'est ça.
Ça n'a pas été long. Alors, on voit qu'ils y croient. Je ne sais pas qu'est-ce que Ponomarev va devenir, mais moi, je l'aime bien. Et puis, je l'aurais pris pas mal avant Luke Tuck.
Ouais. En tout cas, ça va être intéressant de suivre cette évolution-là, parce qu'effectivement, c'est toujours des tendances, puis de regarder qui est en avant de la parade. On n'a pas toujours l'impression que le Canadien l'a été. Les Hurricanes, moi, dans tous les secteurs de leur organisation, j'aime beaucoup leur façon de bâtir leur équipe depuis quelques années, puis je pense que tu viens de mettre le doigt sur un des éléments qui va être à surveiller pour la suite des choses.
Ben c'est ça, on va voir. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais chose certaine, ça va être vraiment une étude de cas là, dans les années à venir.
Ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est super intéressant encore, Simon. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis effectivement, on va suivre ça. Mais moi, j'adore te parler sur ces choses-là parce que j'en connais rien et j'apprends quelque chose à chaque fois qu'on se parle. Alors, merci beaucoup.
Écoute, c'est toujours un plaisir. N'importe quand, messieurs, c'est toujours belle fun de jaser avec vous.
Parfait. Merci bien, Simon. Bonne fin de journée.
Bye-bye.
Bon, Marc-Antoine, encore une fois, une conversation super intéressante avec Simon concernant le repêchage. Tu sais, j'étais pas surpris par beaucoup des choses qu'il a dit concernant le repêchage du Canadien. Je m'attendais un peu qu'il dise que Caden Gooley, c'était le choix un peu safe. Il l'a pas dit avec ce mot-là, mais c'était quand même ça. Puis le fait que Luke Tuck soit un peu moins apprécié comme choix au 47e rang, mais... Je trouve ça intéressant à quel point que tout le monde qui regarde le repêchage regarde Sean Farrell puis se demande comment ça se fait qu'il était disponible au 124e rang. Même les Canadiens l'ont pris avec leur troisième choix de quatrième ronde. Ouais. Et tout le monde est quand même assez épaté avec son potentiel, son talent. Alors d'entendre Simon encore une fois qu'il connaît bien évidemment, qu'il l'a recommandé à Val-d'Or, ça a l'air d'être le choix qui parmi tous les choix du Canadien, c'est lui que je vais suivre le plus, je pense, dans les années à venir.
En tout cas, c'est bien la preuve que le gabarit n'a pas cessé d'être un critère numéro un. Ben, pas numéro un, mais un critère important chez les évaluateurs de talent, parce que, c'est comme le disait Simon, s'il y avait eu 2-3 pouces de plus, ben, il se serait ramassé probablement dans le top 25. Tandis que là, il dégringole à la fin de la quatrième ronde parce que c'est un gars vraiment de petit gabarit. Mais on a beau dire que le hockey a changé puis qu'aujourd'hui, c'est le type de hockey qui favorise davantage ou qui laisse une place aux petits joueurs, mais manifestement, dans l'œil des recruteurs, ça a des limites.
Oui, puis effectivement, tu sais, on voit un peu, ben comme on en a parlé avant qu'on parle à Simon, tu sais, le Canadien est en train d'essayer de grossir. Il y a des équipes un peu partout qui regardent ce que le Lightning a fait avant aux dates limites des transactions en ajoutant un Blake Coleman puis un Barkley Goodrow, puis à quel point ça leur a aidé en série éliminatoire à voir ces deux joueurs-là avec un Yanni Gourde qui est quand même un attaquant de plus petit format, mais ce trio-là était très efficace pendant les séries, puis leur a servi à faire beaucoup de choses. Ils ont rempli beaucoup de rôles en termes des affrontements, des mises en jeu en zone défensive, etc., tuer des pénalités. Puis je pense que, encore une fois, tu regardes les Blues l'année dernière, c'était une équipe qui avait une plus grosse... Il y avait un profil de grands joueurs, de grands joueurs physiques durs à jouer contre, comme Michel Therrien aime dire. Et je pense qu'on voyait ça un peu dans le déroulement du repêchage. Le fait que Michak soit disponible au 48e rang pour le Canadien, ça en était une preuve. Il y en avait d'autres, tu sais, Sean Farrell aussi, mais il y avait d'autres joueurs qui ont glissé à cause de leur gabarit apparemment. Et dans ce sens-là, c'est pas très surprenant parce que je pense que, tu sais, la Ligue nationale est encore en train de trouver cet équilibre-là entre la robustesse puis les habiletés, puis le grandeur des joueurs, la grosseur des joueurs. Et il me semble que les équipes n'ont pas trouvé encore cet équilibre-là.
Non. En tout cas, dans notre entretien avec Simon, j'avais parlé avec le directeur général du Steel de Chicago, Ryan Hardy, qui disait ben là, tout le monde justement parle du Lightning de Tampa Bay puis du fait qu'ils ont gagné la Coupe parce qu'ils sont allés chercher Coleman puis Goodrow, l'argument que tu amenais il y a quelques instants. Mm-hmm. Mais il disait faut pas oublier que dans le fond, c'est un gars comme Braden Point qui fait avancer l'autobus, puis Braden Point, à ce que je sache, c'est un petit joueur, fait qu'il faudrait pas continuer de toujours lever le nez sur les petits joueurs.
Ben, alors, effectivement. Il a entièrement raison. Puis c'est Kucherov aussi. Kucherov, le Lightning l'a eu en deuxième ronde parce qu'il était russe et parce qu'il était pas très grand. Et c'est ça, c'est le Lightning a pris avantage des certaines, tu sais, en anglais, on appelle ça des market inefficiencies, je ne sais pas comment dire en français, mais des faiblesses dans l'évaluation des joueurs des autres équipes. Et ils ont pris cette faiblesse-là, puis ils ont renforcé leur propre équipe en utilisant ces faiblesses-là contre leurs adversaires, dans le fond. Puis, je sais pas, on verra. Tu sais, parce qu'on ne peut pas oublier que quand même, les Canadiens ont utilisé un 15e choix l'année dernière sur Cole Caulfield, qui a glissé au 15e rang à cause de son gabarit. Mais voilà. Ça, quand même, les Canadiens ont utilisé ce choix-là sur un joueur comme ça. Alors, c'est pas comme si ils ont complètement oublié que le gabarit n'est pas nécessairement le critère numéro un en évaluant un joueur. Mais je pense que cette année, on a vu le pendule aller un peu de l'autre bord pour le Canadien. Ils ont essayé de se grossir un peu dans le repêchage et aussi gérer leurs actifs, comme Simon en a très bien parlé, le limite des 5 ans de contrat. Mais je pense aussi juste la progression de leurs espoirs. Ils essayent de gérer ça le mieux possible parce qu'ils en ont beaucoup en ce moment.
Exact. Alors, le repêchage est derrière nous. La première semaine du marché des joueurs autonomes est derrière nous. Comme on en a parlé aujourd'hui, ça a été très, très actif. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, il va y avoir une période d'accalmie. Il le faudra bien. Mais en tout cas, je pense qu'on a été gâtés. Il y a beaucoup de matière à digérer, puis beaucoup de choses qui sont passées dans l'entourage du Canadien. Je trouve que ça a été deux semaines très très fertiles en événements. Puis écoute, le visage de l'équipe est appelé à changer quand même pas mal. Puis honnêtement, je vais te dire, Harpin, là, j'ai rarement vu depuis l'arrivée de Marc Bergevin en poste un tel niveau d'optimisme chez les amateurs envers la direction que prend l'équipe que ce qu'on a senti. Surtout depuis la signature de Tyler Toffoli, qui fait en sorte que là, tu t'ajoutes un attaquant top 6 de plus dans cette équipe-là. Puis ça fait en sorte que là, il y a comme un sentiment de sécurité au sein des amateurs de dire « Ah, ben là, t'as des gars comme Byron, comme Lekkonen ou comme Armia qui pourraient se retrouver sur le quatrième trio. On a enfin une bonne équipe. » Fait que ça, c'est vraiment le signal que j'ai reçu de la part des amateurs depuis la signature de Toffoli. Puis je comprends ces amateurs-là d'être quand même assez enthousiastes par rapport à ce qui s'en vient pour la suite.
Oui, effectivement. Puis je dirais que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on devrait avoir une saison morte l'année prochaine, aussi mouvementée qu'on vient d'avoir cette année avec le très peu de joueurs qui sont sous contrat avec les Canadiens. Alors on verra comment tout ça va se dérouler l'année prochaine. Mais pour l'instant, pour l'année qui s'en vient, les Canadiens ont définitivement une équipe qui est quand même assez intéressante. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler sur la glace, mais c'est sûr que je suis d'accord, depuis l'arrivée de Marc Bergevin, c'est probablement l'alignement le plus intéressant qu'on a vu à Montréal.
Ouais. Ben merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Restez à l'affût pour nos prochaines diffusions. Et puis, on va évidemment, on compte sur vous pour continuer de guetter de près tout le travail de Marc Bergevin et de son équipe. Alors, merci d'avoir été là, puis à bientôt. Merci, Harpin.
Salut tout le monde, merci.